La collection Culture Accessible vous propose de découvrir l'artiste Charley Jaffe au travers de son œuvre Hop and Skip, une huile sur toile réalisée en 1987. Née en 1923 et décédée en 2016, Charley Jaffe est une peintre abstraite américaine. Dans les années 1960, elle tourne le dos à des débuts prometteurs dans l'esprit de l'expressionnisme abstrait. Sa géométrie est bien ordonnée, mais ça va manquer contrarié. Toujours dévoyée, aléatoire en apparence, mais scrupuleusement dictée, à l'instar de certaines compositions musicales de ses contemporains. Son titre, Hop and Skip, se traduit en français par « Sauter à cloche-pied », se trouve actuellement au MoMA, The Museum of Modern Art à New York. Grâce aux deux planches tactiles à votre disposition, vous allez pouvoir explorer d'une part l'œuvre dans son ensemble, sur la grande planche tactile sur la page de droite, et d'un autre côté, comprendre sa structure sur la planche de détail au format A4. Vous allez pouvoir explorer cette forme principale qu'il est possible de percevoir grâce aux perforations dans le papier. Vous pourrez alors comprendre les contours très précis des formes de Charley Jaffe qu'elle compose dans son tableau. Ce tableau, mesurant 114,6 cm de large et 219,4 cm de hauteur, forme un grand rectangle allongé verticalement. Sur la toile originale, chaque forme est colorée sur un fond blanc qui correspond ici au papier. Sur la planche de détail, chaque forme est accompagnée de petites pastilles circulaires en haut à gauche de chaque forme. Le nombre de points alignés verticalement correspond à une numérotation allant de 1 à 7 qui se réfère aux différents points évoqués dans l'audio. Prenez un moment pour explorer ces deux planches. Pour commencer, sur la planche de détail en haut à gauche, au niveau de la première pastille, il est possible de toucher une première forme. Cette forme est arquée, comme un demi-disque, avec une petite particularité en bas à gauche de celle-ci. Dans le tableau original, elle est de couleur jaune et se situe au centre à gauche. Quand on regarde le tableau, cette forme ressort particulièrement sur le fond blanc par la lumière et la chaleur qu'elle apporte. Pour la deuxième forme, vous pouvez vous décaler légèrement sur la planche de détail vers la droite, où vous pourrez sentir, cette fois, deux pastilles. Cette deuxième forme est différente de la première, mais s'en rapproche tout de même par sa taille et certaines de ses courbes. Dans le tableau, celle-ci se situe un peu en dessous de la première forme jaune. Cette fois-ci, elle est orange. Sa lumière fait d'elle aussi une forme très vive qui ressort de la toile et qui dialogue avec la forme jaune. La troisième forme, correspondant aux trois pastilles sur la planche de détail, correspond à la dernière forme chaude du tableau. Elle se situe dans la partie haute du tableau, sur la droite. Elle est composée de courbes, de droites et d'angles. Elle est plus petite et plus complexe au toucher. Elle est de couleur rouge, légèrement terne, mais participe aussi au dynamisme du tableau. En quatrième forme, à droite, sur la planche de détail, nous retrouvons un carré. Dans le tableau, il se situe au centre, sur la droite. Il est gris, relativement froid, mais ressort du tableau car c'est l'aplat le plus grand. En cinquième forme, nous retrouvons une spirale. Pour des raisons techniques, sur les planches, elle est entrecoupée à certains endroits, mais dans la réalité du tableau, la forme est continue. Dans le tableau, elle se trouve en bas et au centre. Sa couleur vert foncé crée un fort contraste avec le blanc du tableau qui l'entoure, donnant l'impression qu'elle flotte. En sixième forme, il est possible de toucher un rectangle, cette fois-ci plus irrégulier. Il est situé tout en bas, à gauche du tableau. D'un bleu très clair, il dialogue avec le carré gris vu un peu plus haut. En septième et dernière forme, il est possible de toucher, sur toute la partie basse de la planche de détail, plusieurs petites formes très proches les unes des autres. Elles oscillent entre des rectangles et des arcs de cercle, mais aussi une forme un peu plus grande, qui est composé de zigzags. L'ensemble de ces formes sont bleu foncé et situées en haut du tableau. De par leur importance, elles ressortent de la toile. Ces sept formes colorées font partie de celles qui ressortent le plus de la toile. Mais le tableau comporte plein d'autres formes que vous avez peut-être remarquées, comme un plus petit carré situé au-dessus du grand carré gris évoqué plus haut, mais aussi des formes allongées horizontalement, créant des vagues en bas de la toile. Ou enfin, des petites formes dispersées. Celles-ci sont plus discrètes de par leur taille, mais aussi et surtout par leur couleur marron et vert relativement sombre. La pratique de Charlotte Jaffe. À partir de 1983, le tableau devient un élément stylistique essentiel dans les tableaux de Charlotte Jaffe. Cependant, le blanc n'est jamais une couleur de fond et varie d'une peinture à l'autre. Parfois, Jaffe complète ses œuvres par de longues lignes sinueuses ou anguleuses qui traversent plusieurs champs de couleurs. Ses tableaux sont réalisés lentement. Même pour les plus grands formats, elle utilise de petits pinceaux pour une précision maximale. Elle commence avec une peinture très diluée et concrétise progressivement la forme et la tonalité finale. Parfois, elle utilise un film transparent pour tester les éléments nouveaux avant de les appliquer sur la toile. Si elle n'est pas satisfaite, elle gratte la peinture pour la détacher de la toile. Au final, le blanc sert à affiner les contours définis et à effacer les traces du processus de création. Jaffe souligne souvent qu'elle n'est pas intéressée par la beauté. Dans ses tableaux, elle aspire à une coexistence qui se reflète dans la relation tendue entre la forme et la couleur. Elle intègre aussi, consciemment, des éléments surprenants dans sa composition, précisément parce qu'elle semble déplacée. Tableau périodique des éléments. Plusieurs périodes se seront enchaînées pour constituer l'œuvre de Jaffe. Il est facile d'en discerner cinq, même si les enchaînements doivent parfois être nuancés et si les subdivisions s'imposent à l'intérieur de chacune. Elle commence sous une influence assez nettement impressionniste. La première période se poursuit de façon plus tumultueuse en faisant varier les procédés techniques. On note un usage passager du couteau par une application de la peinture en plaques épaisses et localisées. Les tableaux peuvent alors suggérer de grands paysages naturels. Enfin, la matière s'aplatit, la touche frottée et la palette gagnent en complexité. La gestualité est exacerbée. La palette suit elle aussi une évolution en trois séquences. D'abord lumineuse, transparente et ouverte, elle se resserre au gris, parfois teintée de bleu et au jaune, utilisée dans une pâte visqueuse. Enfin, Jaffe atteint à une pleine maîtrise de la couleur entre 1958 et 1961. Elle joue des accords raffinés et audacieux. L'artiste témoigna plus tard qu'elle disposait de peu de moyens financiers et que ses choix de couleurs s'en ressentirent, d'où l'obscurissement et les caractères terreux du chromatisme sur la fin. De 1963 à 1968, la deuxième période débute avec l'arrivée de Jaffe à Berlin, où elle reste un an et demi grâce à une bourse de la Ford Foundation. Le souci de la composition s'y exprime par l'introduction de formes simples, nettement identifiables, à la géométrie contrariée, par une gestualité qui, par contraste, paraît encore plus vigoureuse. La couleur claque et souligne la structure du tableau. Le geste compte, mais il se résout par endroits en surface relativement unie. Des ovales, des diagonales, des cercles, des triangles, des prismes se lient déjà dans un traitement où rivalisent couleur et graphisme, comme chez les expressionnistes allemands au début du siècle, que Jaffe peut regarder à loisir à Berlin et qui l'intéresse. Retour à Paris, on pense à Bram van de Velde, mais elle ne le citera jamais. De 1968 à 1972, la troisième période marque un saut radical qui se manifeste par trois caractères. La disparition de la gestualité, la géométrie franche et les couleurs en aplats. Il s'ensuit une composition par cases de couleurs, sans suggestion de profondeur. Ce travail par juxtaposition s'accompagne du choix de dynamiser les rapports de couleurs, non par intensité pour commencer, mais par contraste de proximité. La palette prend une étendue et une variété de nuances jamais explorées jusque-là. Boulevard Montparnasse, 1968, manifeste la volonté de rupture avec une audace et une réussite remarquables. C'est le premier tableau à entrer dans une collection publique. F's Pictures, 1968, dédié à Fournier et qui restera dans sa collection personnelle, a tout autant de valeur d'hommage que la provocation car l'artiste s'est écarté de la ligne de la galerie. Provocation assumée par le marchand qui choisit pour carton d'invitation de l'exposition personnelle de 1969 un portrait de l'artiste en pied, en tenue d'atelier qu'on dirait sortie d'une chorégraphie d'Oscar Schlemmer. En arrière-plan de l'image, deux toiles à bouter en losange reflètent la radicalité du passage à l'acte. La silhouette de la femme est aussi dynamique que la forme peinte en aplats, au contour net, sont stables et arrimées les unes aux autres. De 1972 à 1982, la quatrième période est marquée par l'introduction de la forme libre dérivée de la géométrie classique, chacune traitée en aplats d'une couleur propre. Quand des lignes viennent coloniser une surface colorée, elles n'en débordent pas, elles n'en chevauchent pas plusieurs. Les formes sont plus ou moins imbriquées, prennent valeur de motif. Vers la fin de cette période, l'artiste est tenté de s'émanciper du châssis rectangulaire, Malibu 1979, La mer rouge 1980. Elle peint des toiles triangulaires, un grand tondeau, Mozart Kugel 1982, puis des petits tondis et des petites toiles ovales. Elle peindra aussi trois tableaux verticaux, étroits comme des portes ou des colonnes. De 1983 à 2016, la cinquième période, la plus longue, celle de la maturité, est marquée par l'usage du blanc, amorcé avec Malibu, qui vient d'abord séparer les formes pour leur donner une indépendance. Le pull se resserre. Le blanc, qui ne jouera jamais le rôle d'arrière-plan, lève totalement cette ambiguïté et contribue activement à la distribution de la couleur. Les formes précédemment isolées par lui peuvent désormais s'emboîter sans lui. Elles peuvent s'entrechoquer et s'entredécouper. Elles peuvent ainsi donner l'impression de se superposer, mais sans illusionnisme. Les lignes, plus longues et invasives, sinueuses ou anguleuses, qui parcourent à présent plusieurs pages de couleurs, suggèrent davantage cet effet de superposition. Le motif joue des coudes avec des signes, des fausses calligraphies. Puis, à partir de 1995 et surtout à partir de 2001, des changements de densité dans une même surface colorée et des traces de pinceaux font leur apparition, s'ajoutant au chaos dynamique organisé et faisant exception à la règle strictement observée de l'aplat. Ces irrégularités sont très localisées et sont de deux natures. Mais c'est le registre des lignes qui se prête le plus naturellement à rendre visibles les traces du pinceau quand Jave en parcourt la toile, jusqu'à désaturation de la charge de la peinture embarquée par la brosse, ou bien quand elle choisit d'utiliser une matière picturale très liquide, contrairement à celle maçonnée, même de faible épaisseur, des aplats, gestes et traces. Même en sa période où la peinture maçonnée ne supportait aucune exception, aucun débordement localisé, comme on le verra plus loin, et même lorsqu'elle refusait encore de remontrer ses tableaux et ses débuts gestuels, Jeff revendiquait sa parenté avec la deuxième vague expressionnisme abstrait. Or, ni les œuvres sur papier, ni les traces de pinceaux assumées apparaissent localement sur certains tableaux, après 2001, ne reflètent directement cette fraternité. Et lorsqu'on compare ce qu'elle produisit depuis les années 80 et ceux de ses tout débuts, aucun doute n'est possible. Qu'on prenne maintenant les œuvres sur papier qu'elle produisit à partir de la fin des années 80, elles sont certes de facture beaucoup plus libre que les toiles, mais elles n'ont rien d'en commun plastiquement avec les aquarelles de la première période. Et elles ne suivent pas la même évolution, certes lente, que les toiles qui leur sont contemporaines. Le papier récent n'évolue guère. De fait, il présente une égale assurance spontanée qui le rend difficile à choisir, le cas échéant, pour un amateur averti ou un spécialiste. La présence de la trace n'y est pas survivante d'un geste archaïque. Effet de direct. Le tableau F's Pictures 1968 est une œuvre de transition où la charnière tient en deux traits de pinceau exécutés à la main levée dans un rouge éclatant qui se détache nettement sur une surface claire assez neutre entre bleu, vert et gris. Il se remarque surtout au premier coup d'œil par contraste avec l'organisation orthogonale d'une vingtaine de rectangles pleins en aplats soignés. Le temps passé à ne pas laisser de traces, à les effacer en quelque sorte dans l'exécution de chaque aplat, n'est pas démonstratif. A l'inverse, la trace rouge induit ici un effet de direct. Cause et effet sont confondus et le contraste est troublant. On ne voit pas dans cet accent écarlate un accident, mais plutôt l'expression d'une désinvolture nécessaire pour faire vibrer le tableau non seulement chromatiquement, mais aussi structurellement. Alors, Jave, désinvolte, personne n'y croyait, et il lui faudra plus de 30 ans pour se remettre de l'audace de ce tableau et y goûter à nouveau. The Brown Frame, 2011, en fait une même citation littéraire, au même endroit de la toile 43 ans plus tard. Jave était un peu volubile. À partir des années 80, devant ceux qui lui demandaient avec insistance ses explications, elle déballait lentement, précautionneusement, un discours qui, de variation en variation, tenait dans les mots chaos, coexistence, dislocation, dissonance, intensité et tension. Elle s'employa à la mettre en œuvre, pas à la démontrer à travers ses œuvres. Et c'est en cela qu'on reconnaît un Charlie Jaffe de la maturité. Car le jeu des formes et des couleurs ne suffit pas à caractériser Jaffe. Il y a bien, dans ses tableaux, cette tension, cette sonorité, un peu mate, elle aussi, comme ses aplats, le bruit de fond de la rue, lignes et signes. Les titres imaginés que donnait Jaffe à ses tableaux sont souvent autant de fausses pistes d'interprétation, une invitation à se fourvoyer. Des mots-clés reviennent souvent cependant, des noms de couleurs, car quand ils ne sont pas donnés par convention poétique et par commodité arbitraire pour se remémorer les œuvres, les titres de Jaffe sont descriptifs, platement descriptifs même. Ils soulignent alors un phénomène plastique remarquable pour l'artiste. Une découverte, une surprise, une résolution. Un phénomène parmi d'autres pour toute autre qu'elle. Il se passe tant de choses dans un tableau. Le titre descriptif est alors comme une note en bas de page de l'édition scientifique, un texte littéraire, on y prête attention ou pas, on s'y arrête ou pas. Donner trop d'importance au phénomène en question peut même nuire à la perception globale du tableau. Charlie Jaffe en faisait donc un mémo personnel. Ils indiquent toutefois une tendance qui s'installe alors significativement. Ces lignes vont en effet, à partir du milieu des années 70, prendre de plus en plus d'importance. Après 1975, les lignes se diversifient et l'artiste leur confère des fonctions différentes. Stries, parcourant des formes, cloisonnement labyrinthique de celles-ci, vermicules, venaient perturber les surfaces unies, à l'instar du motif décoratif. Car bientôt ces lignes gagnent en autonomie et s'apparentent à des signes quand elles se combinent et s'entrecroisent pour former des sortes d'idéogrammes. Elles prennent donc une dimension calligraphique. Et si l'on pense au décotexte des années 50, il faut préciser que chez Jaffe, même lorsqu'ils sont souples et apparemment improvisés, les caractères qui forment son écriture sont encore appliqués sur les toiles avec lenteur, comme pour soigner leur lisibilité. C'est plus à une fausse écriture que l'on se met à penser qu'à l'élaboration d'idéogrammes présentant isolément un intérêt graphique. Il en va cependant un peu différemment pour les œuvres sur papier. Des pages d'écriture s'en remplissent ainsi un peu plus tard. Les lignes qui s'inscrivent dans des compositions sont tantôt tordues, à angles vifs, tantôt tire-bouchonnées, comme des épaves traînant sur un trottoir. On pense ici aux sculptures involontaires 1932 de Brassailles, notamment à cette étiquette triturée en aveugle au fond d'une poche. En vérité, ces lignes sont imprévisibles. Certaines sont un peu ridicules, mais il n'y a pas de période nouille chez Jaffe. Entre-temps, depuis 1999, celle-ci est représentée par la galerie Nathalie Obadia, dont l'efficacité la sortira de l'inconfort et contribuera à un renouvellement de sa reconnaissance. À sa mort, Nathalie Obadia entreprend de dresser le catalogue raisonné de l'artiste et elle prend une part active à assumer sa prospérité avec notamment un stand monographique à Art Basel Miami Beach en 2018. Des photos d'époque témoignant qu'ils y étaient dès le début. Parmi ces trois lignes fuyant, en épousant les courbes de la gaine, on retrouvait quelques lettres de l'alphabet romain, fidèlement ciselées dans le plâtre. D'autres, tout aussi régulières, déviant de la graphie habituelle pour suggérer des variantes cyrilliques. On remarquait aussi des successions de barres verticales de même hauteur et respectant les mêmes espacements. Et enfin des espaces plus importants s'intercalaient entre ces paquets de lettres formant des mots impossibles à lire. Cet accompagnement audio vous est proposé par Tactile Studio en association avec le Centre Pompidou.